Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 12h pile à Kinshasa, voici le journal. Le pasteur Daniel Ngoï Moulunda est condamné à 3 ans de prison. C'est le verdict du tribunal de grande instance de Lubumbashi qui le poursuivait pour incitation à la haine, propagation des faux bruits et atteinte à la sûreté de l'État. C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale va examiner ici à Kinshasa la motion de censure contre le gouvernement. C'est pour permettre au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui était en mission de service à Lubumbashi et qui a rejoint la capitale hier soir, de présenter ses moyens de défense. Notre invité, c'est l'administrateur du territoire de Kalemie, Bernard Bokolanganya, parle du dépeuplement des habitants dans les villages voisins à 60 km au nord de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Le pasteur Daniel Ngoï Moulunda est condamné à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate. Il doit aussi payer 500 000 francs congolais d'amende. Ce verdict a été rendu public ce mardi soir. Ses avocats se disent surpris car il leur a été demandé de passer ce mercredi pour le prononcé du jugement. Ils indiquent avoir découvert ce jugement au greffe du tribunal des grandes instances de Lubumbashi. Le pasteur Daniel Ngoï Moulunda était poursuivi pour incitation à la haine, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté de l'État. Ceci fait suite aux propos qu'il avait tenus le 16 janvier dernier dans son église de Lubumbashi à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la mort du président Laurent Désiré Kabila. Ces propos étaient qualifiés de séparatistes par plusieurs personnes. Notons que tout au long de ce procès, ses avocats n'ont cessé de dénoncer le non-respect de la procédure par le tribunal. Un présumé chef milicien est tombé dans le filet de la police nationale en début de la semaine dans les territoires de Dimbelenge. Il est accusé de rébellion contre l'administration territoriale de Mweka au Kasaï. Des tensions ayant causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, des sources proches de la police nationale renseignent que l'homme a déjà été transféré à Kananga, d'où nous appelle Blaise Nongala Mayanda.
C'est la police du groupe mobile d'intervention GEMI qui a réussi à mettre la main sur ce présumé chef milicien, affirme des sources de la PNC. Selon les mêmes sources, cet homme a été appréhendé en territoire de Dimbelenge où il s'était réfugié après avoir créé des troubles en territoire de Mweka au Kasaï. L'incriminé s'était même autoproclamé administrateur du territoire de Mweka et a soulevé la population contre les institutions établies. Il est également accusé d'avoir créé des tensions et a causé plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines, dont 4 policiers. C'est ainsi que les habitants du groupement Batu Akadimba ont vidé leur village par peur des représailles. Certains notables du Kasaï recommandent aux autorités provinciales de restaurer la paix dans cette partie du territoire de Mweka en vue de faciliter les retours de ces populations. Pour rappel, la situation sécuritaire s'était dégradée depuis plus d'une semaine au groupement Batu Akadimba, situé à 550 km de Chikapa. Et pour cause, les peuples étois avaient tenté d'installer leur entité politico-administrative. Une initiative qui n'avait pas plu aux autorités politico-administratives du territoire de Mweka au Kasaï. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant 7 ans, la justice militaire a mis la main sur 2 présumés auteurs du meurtre de 6 éco-gardes du parc national de Virunga. Il s'agit des premiers résultats de l'enquête qui a été menée par l'auditorat militaire supérieur près la cour opérationnelle. Dans un communiqué de presse qui a été publié lundi dernier, l'alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme dit s'en réjouir. Le secrétaire exécutif de cette ONG félicite la justice militaire pour la poursuite déjà ouverte contre ces suspects. Il demande que tous les réseaux impliqués dans cette affaire soient démantelés. Maître Olivier Ndolé est au micro de Bernard Nenyangui.
On est en train de saluer les efforts déployés par la justice militaire. Et je crois qu'il était important qu'une lumière par rapport à toutes ces attaques soit établie. Le fait qu'il y ait déjà ouverture d'un dossier sous le RMP 2235/2021 et des personnes arrêtées et qui ont des éléments dont la justice à cette phase ne peut pas peut-être délivrer sous la place publique. Je pense que quand même c'est quelque chose à saluer et nous pouvons faut donc prêter main forte à cette justice pour qu'il y ait plus d'éléments. On voudrait que, comme il y a déjà des pistes par rapport à toutes ces personnes, tous ces groupes armés qui veulent faire d'un programme politique le pillage des ressources et aussi la violence et les attaques contre des éco-gardes, pour qu'il y ait un procès pédagogique, historique par rapport à ces événements.
Rappelons que les 6 éco-gardes avaient été tués lors de l'attaque d'hommes armés contre leur convoi le 10 janvier dernier dans la zone de Niamitwitwi, en territoire de Rutshuru. Au Sud-Kivu, des actes de torture et autres traitements inhumains sont signalés à la prison centrale de Bukavu et celle de Kabare. Pour être à l'abri des tortures dans ces deux prisons, les détenus sont obligés de payer des frais allant jusqu'à $500 américains. C'est ce qui ressort d'un rapport d'enquête qui a été mené par la Caritas Bukavu et l'organisation dénommée Partenariat pour la protection intégrée. Ces deux organisations recommandent l'implication du gouvernement congolais pour la promotion des droits humains dans les prisons de Bukavu. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Emmanuel Elmejo-Kabedi.
Le monitoring dans les prisons de Bukavu et de Kabare porte sur les causes réelles de décès et différentes maladies dans ces deux maisons carcérales. Les résultats indiquent qu'il se passe une torture à outrance, suivie d'autres actes de traitement cruel à l'endroit de certains détenus. Maître Pascal Mopenda.
Il a été attesté qu'il y a une torture à outrance dans des prisons. Nos compatriotes sont torturés par certains détenus qui collaborent directement avec certaines autorités pénitentiaires juste pour qu'ils puissent payer de l'argent. Dans les cas contraires, ils sont soumis à des tortures.
Pour se mettre à l'abri de la torture, les détenus sont soumis au versement de certains frais pourtant illégaux. Ils sont perçus par le capitaine général en sa qualité de chef de prisonnier.
Au niveau de la prison centrale de Bukavu, pour accéder au quartier spécial, les droits d'entrée est fixé entre $300 et $500 américains. Au niveau de la cour centrale, il faut payer minimum $65 comme droit d'entrée. Voilà tout, c'est vrai. Il y a au moins autour de $15,000 qui sont collectés chaque mois au niveau du quartier spécial.
Caritas Bukavu et le PPI recommandent ainsi l'interdiction de la catégorisation des détenus en capitaine général, chef du quartier spécial, chef de la cour centrale au sein de la prison de Bukavu et des Kabare. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. L'examen de la motion de censure contre le gouvernement congolais par l'Assemblée nationale doit finalement avoir lieu aujourd'hui mercredi. C'est pour permettre au Premier ministre qui était en mission de service à Lubumbashi et qui a rejoint la capitale congolaise hier soir de présenter ses moyens de défense. C'est sous une forte tension entre les délégués, les députés du FCC et ceux de l'Union sacrée pour la nation au cours de la plénière d'hier mardi que l'Assemblée plénière a voté pour ce report. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale invite donc les députés au calme et à privilégier l'intérêt de la nation. Il leur rassure qu'avec ou sans la présence du Premier ministre, à la plénière de ce mercredi, l'Assemblée nationale va statuer valablement. Les propos de Christophe Mbosokodian-Pouanga ont été recueillis par Michel Kifinangoy.
Nous avons bien démarré la session extraordinaire. Nous avons tenu compte de l'intérêt général, la paix, la cohésion, et nous avons travaillé en fonction également du respect de nos lois, la Constitution, les lois de la République et les règlements. Que nous soyons tous animés de le même esprit du début jusqu'à maintenant. Votre bureau ne peut rien imposer à la plénière qui est souveraine. Le Premier ministre est absent. On nous présente un ordre de mission. Son retour est prévu aujourd'hui. Alors, il serait peut-être pour l'intérêt général bien de reporter les débats demain à 11h pour que le Premier ministre se présente. S'il ne se présente pas, l'Assemblée plénière va statuer souverainement.
Autre nouvelle en plus, bref, sachez que le Sénégalais Kassim Diagne est nommé représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations auprès de la MONUSCO. Il succède ainsi à l'Américain David Grisly, à qui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde reconnaissance pour son dévouement au service de la mission onusienne. Kassim Diagne jouit d'une expérience de plus de 25 ans dans les domaines de la protection des réfugiés, des affaires politiques, de la gestion l'administration et du contrôle. Il a occupé depuis 2017 le poste de directeur de l'unité politique maintien de la paix humanitaire et droits de l'homme au bureau exécutif du secrétaire général de l'ONU. Bien avant, il avait exercé comme représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés aux États-Unis d'Amérique et dans les Caraïbes. Au Kasaï-Oriental, suspension hier mardi de 3 membres du comité de gestion de l'entreprise énergie du Kasaï, Enerka, une filiale de la société minière de Bakwanga et de 2 de leurs collaborateurs. C'est après un audit interne diligenté dans cette entreprise qui commercialise le courant électrique en Mbujimayi. La direction générale de la MIBA a à cet effet confié l'intérim de la gestion au responsable de la production à la centrale hydroélectrique de Tchiala en Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Cette suspension de 15 jours ouvrables concerne le directeur général de l'entreprise énergie du Kasaï, le directeur commercial, le directeur en charge de l'administration et finances, d'un des collaborateurs du directeur de coordination technique ainsi que d'un agent de maintenance au niveau de la centrale hydroélectrique de Tchala. La direction générale de la société minière de Bakwanga, qui a pris cette disposition, affirme que cette décision intervient suite aux conclusions du rapport d'audit interne diligenté depuis le mois de décembre dernier au sein de NRK. Ce rapport révèle certains faits graves d'après la direction de la MIBA. C'est par exemple celui d'accorder un traitement particulier et spécifique à certains clients dont leur nom ne figure pas sur la liste des abonnés de l'entreprise. La délégation de la direction générale de la MIBA venue notifier la décision aux concernés s'est fait accompagner des éléments de la police qui leur ont fait sortir des bureaux sans rien emporter. Cette suspension peut être levée d'après la direction générale de la MIBA si les concernés fournissent des explications autour des faits mis à leur charge. Signalons que c'est depuis une année que les agents de NRK menacent d'aller en grève pour non-paiement des salaires. Ils soupçonnent les responsables de la direction générale d'être souvent à la base de la malversation financière. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Voilà qui nous conduit en Ituri où presque tous les villages le long du tronçon Bounia-Komanda sur la route nationale numéro 27 sont vidés de leurs habitants suite aux attaques de la force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC. Pour le député national Jackson Aoussé, ce décor prouve la défaillance des services de sécurité pour démanteler les groupes armés dans ces territoires. Allégation rejetée en bloc par l'armée qui soutient que les militaires sont plutôt déployés le long de cette route pour protéger la population. Reportage à Bounia d'Isaac Remoyope.
À parcourant les tronçons Bounia-Komanda, c'est le sentiment des pères qui gagnent tout passant. Il n'y a pas de signe de vie à partir de Lengabo à 5 km à l'entrée sud de Bounia, à progressant vers Tchaï, Komboka, Bokaya, Marabo, Olu 1 et 2, Ndoya, Irumu centre jusqu'à Mangiva à 70 km. Les maisons sont abandonnées par les occupants, d'autres habitations ont été pillées ou incendiées. Les herbes ont envahi toutes les parcelles. Même la barrière pour la perception des taxes qui était installée à Tchaï a été délocalisée proche de Bounia. La circulation est également timide sur ces tronçons. Il y a l'ombre de la mort due à la présence des miliciens. Pour le député national Jackson Aoussé, cette situation est inacceptable et traduit la défaillance totale des services de sécurité qui sont défiés par les milices.
La population est en déplacement, les écoles sont fermées, le village entier est vide. Ça s'appelle la compétence du gouvernement. Si c'est un groupe armé peut arriver à pousser la population à se déplacer et à défier l'État, ça doit nous interpeller.
Les porte-parole de l'armée en Ituri rétorquent que les soldats sont placés tous les long de cette route. Il demande aux habitants de ne pas céder à la peur qui les empêche de retourner dans leur milieu d'origine. De son côté, l'administrateur du territoire d'Irumu demande aux humanitaires d'apporter de l'aide aux déplacés pour encourager leur retour dans leur milieu d'origine. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Alors que la province de l'Équateur est à son 48e cas de coronavirus, l'UNICEF multiplie ses interventions dans la riposte et la résilience de cette maladie. C'est qui explique la remise hier mardi à Mbandaka des matériels médicaux à la province, notamment pour la prise en charge des cas des complications respiratoires dues au Covid-19. L'UNICEF a distribué entre temps des non-vivres à 500 ménages sinistrés du fait d'Ebola et des inondations. Le compte-rendu de Paul Richard Malengela.
Parmi ces équipements livrés par l'UNICEF, il y a d'abord un appareil d'assistance respiratoire, un appareil électrocardiogramme et un concentrateur d'oxygène. Ce sont aussi 40 aspirateurs à pédales avec accessoires, 176 thermoflashs, des antibiotiques ainsi que des gants et masques de protection. Le tout pour une valeur de $37,000, a indiqué l'administrateur en charge de la santé à l'UNICEF Équateur. Paul Komba en a expliqué l'utilité.
Qui permet en fait d'apporter une assistance à un malade qui ne peut plus être en mesure de respirer tout seul, et on a un électrocardiogramme pour suivre le malade qui fait le Covid et qui a des problèmes respiratoires. Ça affecte généralement aussi
le
cœur.
Le ministre provincial de la Santé qui a réceptionné ce don l'a apprécié à sa juste valeur. Bruno Ifoloko.
Je suis très content. Avec cette dotation, c'est quelque chose qui manquait dans nos structures. La réanimation, par exemple, c'était pas vraiment mise en œuvre. Maintenant, avec l'appui qu'on vient de donner, ça va renforcer d'abord, pas seulement pour la pandémie, mais pour les autres détresses respiratoires.
Ces matériels seront distribués, a-t-il précisé, selon le besoin à plusieurs structures de la province. Le médecin directeur de l'hôpital de Wangata Bibichelaba, qui les garde, a cependant plaidé pour l'acquisition d'une source d'énergie permanente et la formation des utilisateurs, une formation déjà programmée par l'UNICEF. Enfin, dans le cadre de la résilience d'Ebola, cette agence onusienne a aussi distribué des non-vivres à 500 ménages à Ikengo, à 30 km du centre-ville. Bandaka, Paul Richard Malengue, la Radio Okapi.
L'actualité sur Radio Okapi, c'est aussi le lancement ce mercredi à Matadi d'une plateforme WhatsApp mise en place par le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus dans l'objectif d'interagir tout habitant du Congo central en ce qui concerne cette pandémie en RDC. Danilo Miakala, vice-président de la commission communication des risques et engagements communautaires du secrétariat technique de la riposte qui a présenté cet outil, invite la population à enregistrer ce numéro WhatsApp dans leurs contacts et lancer une conversation. À Matadi, Nana Pleurich Mambou.
Cette plateforme WhatsApp qui a pour numéro les 099 556 72 16, elle se nomme Alerte Santé COVID-19. Elle est une ligne d'assistance mise en place par les comités multisectoriels de la riposte contre la COVID-19. Cette ligne d'assistance va désormais fournir à tout utilisateur WhatsApp habitant la province du Congo central des informations les plus récentes et fiables sur la situation épidémiologique de la maladie en RDC. À travers ces forums, la population aura la possibilité de soumettre ses préoccupations par rapport à la COVID-19. Vu l'importance de cette initiative, les vice-présidents de la commission communication des risques et engagements communautaires demandent à tous les utilisateurs WhatsApp à enregistrer ces numéros de téléphone et les vulgariser en les partageant à leurs contacts et avec les différents groupes WhatsApp dont ils sont membres. Selon lui, toute personne qui enregistrera Alerte Santé COVID-19 sur son téléphone deviendra un canal de communication susceptible d'apporter des informations fiables sur le coronavirus au sein de la communauté. Notons que la province du Congo central est la troisième bénéficiaire de cette plateforme WhatsApp après la province de Kinshasa et celle de la Chopo. De Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, organe qui avait été créé il y a quelques mois par les militaires putschistes, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé hier par le président de la transition et le premier ministre Mokhtar Ouane. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait encore récemment demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le pouvoir des militaires. Mais même si cette dissolution est un événement aujourd'hui, les militaires n'ont pas totalement disparu. Et puis, le sommet du G7 Sahel aura lieu dans 3 semaines en N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, le président français Emmanuel Macron reçoit depuis mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour de Bandao, le président de transition du Mali, d'être reçu ce mercredi à l'Élysée. Cette visite inattendue est un signal fort envoyé par la France aux nouvelles autorités maliennes.
L'invité.
La localité de Kabimba observe le dépeuplement des habitants dans les villages voisins à 60 km au nord de Kalemie, dans la province du Tanganyika. Ces habitants en fuite par les dômes armés qui se livrent quotidiennement à l'exploitation illégale du bois et font également des incursions dans les villages. Des morts sont même déplorées. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans la zone, l'administrateur du territoire et notre invité, Bernard Bokolanganya, s'entretient avec François-Xavier Mibé.
Bernard Bokolangagna, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'apprendre par des voies informelles que les villages qui entourent Kabimba, les sièges des institutions du territoire des Kalemie, ces villages donc sont en train d'être vidés les uns après les autres. Qu'est-ce qui provoque ce dépeuplement, monsieur l'ambassadeur?
Merci, monsieur le journaliste. Je vous confirme que c'est vrai. Et ça fait bientôt une semaine. D'abord, vous avez tous les villages qui sont à partir de Kabuga, Mitetezi, Umbwe, Baluba, tous ces villages, au moment où nous parlons, depuis que j'ai quitté hier, continuent à se dépeupler. Et je ne sais pas si ce matin, il peut encore compter quelques habitants là-bas. C'est difficile.
Qu'est-ce qui se passe qui pourrait éventuellement échapper à votre contrôle, monsieur l'ambassadeur?
Lorsqu'il y a eu le conflit intercommunautaire, toi, Bantou, c'était l'axe qui était stable, qui était peuplé. D'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle M. Fouillet est allé là-bas, parce que c'était presque l'unique axe où on pouvait trouver les gens pour les administrer. Mais aujourd'hui, il y a des bandits armés qui quittent les montagnes, qui sont dans les montagnes, dans les carrières, qui font l'élevage, et qui font le bois, et qui descendent la nuit pour attaquer la population armée, armée. Je dis pas armée des armes blanches, mais des armes à feu. Des armes, pas seulement à feu, mais des guerres. Ils pillent la population la nuit, ils violentent la population, ils menacent, et ils se retirent. Ils étaient descendus à Mitetezi, ils ont fait la même chose, et là même, il y a eu mort d'homme parce qu'ils ont prié un papa qui n'avait pas d'argent. On est allé l'abattre en brousse. Nous l'avons recherché, je l'ai retrouvé des jours. Après, la tête est coupée. Après, ils sont venus à Kabuga. Ils ont pris le chef aussi, le capitaine qui était là, qui s'est sauvé de justesse par l'amour d'un des assaillants. Quand on l'a ligoté, il est venu les desserrer et lui demander à fuir. Il menace de descendre. C'est ce qui fait que la population s'est vidée. Il y a une partie qui est allée à Kabimba, une partie qui vient vers Taba, une autre partie à Rugo et à Kasenge. C'est ça la situation.
Peut-on parler des inciviques ou des groupes armés qui n'ont pas encore dit leur dernier mot? Et maintenant, que disent vos services techniques au niveau de la sécurité, monsieur l'ambassadeur?
Bon, ils ne sont pas tellement difficiles à identifier. Nos services travaillent, nous sommes sur quelques pistes, parce que quand ils viennent, on les écoute parler telle langue, telle autre, même mal ou bien. Alors on suppose ce qu'ils peuvent être. On voit leurs habits. On est sur la piste et je ne peux pas vous dévoiler la stratégie de travail de la communauté de l'enseignement, mais je crois que ce qu'il faut maintenant, nos pleurs auprès de l'autorité provinciale pour que à Kalemie s'installe une unité de l'infanterie, ne fût-ce qu'un peloton d'infanterie. La force navale qui est là n'a pas d'effectif suffisant et puis ils ne sont pas très frappants. Ce qui fait que même s'ils descendent nombreux comme ils ont les armes, ils peuvent même nous tuer tous, et la population et les dirigeants.
Entre-temps, la forêt continue à perdre de ses bois, de ses arbres.
Effectivement, parce que ces gens, ils exploitent anarchiquement, illégalement les bois. Là-bas, comme ils sont très armés, et quel est ce service-là qui peut aller l'environnement sans risque?
Comment mettre un terme à cette activité illégale?
Ils sont en train de porter les armes. Et on ne peut chasser quelqu'un armé que par l'arme. Et quand on va mettre la main sur lui grâce à la même arme qu'il détient, on saura qui il est et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ça.
Bernard Bokolangagna, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était l'invité de Radio Okapi, Bernard Bokolangagna, administrateur du territoire de Kalemie, interrogé par François-Xavier Mibé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Cette édition a été coordonnée par Babel Mpongo Massimango sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.